Vous avez des lunettes, des lentilles?
J'en mets de temps en temps pour pas me fatiguer le cerveau, mais ça m'empêche pas de lire, de voir.
La dernière fois, vous avez votre ophtalmo, ça remonte à plus de 6 mois déjà?
Oui.
Ouais. On va faire un petit contrôle quand vous...
Dès que vous êtes prêt, appuyez sur un bouton. Si vous voyez un K, appuyez. Un 9, appuyez. Un X, appuyez. Un 3, appuyez. Si vous voyez un 0, appuyez. Un R, appuyez. Un 4, appuyez. Un Z, appuyez. Le contrôle est terminé. Nous vous remercions.
Ok, c'est parfait, monsieur. Vous pouvez passer au simulateur, le médecin va vous appeler. Hein?
D'accord.
Merci.
On est dans les oreilles loin du front et on est rassuré par l'état de santé de Jérémy.
Oui, je vais
c'est
très
parfait,
bien.
Monsieur. Donc si Jérémy ici nous a fait écouter un extrait de sa visite médicale, c'est parce que le dossier de l'émission est consacré donc à la médecine du travail. La médecine du travail qui est concernée par un article, du moins un amendement de la loi sur les retraites, un amendement dont on parle peu aujourd'hui. Et qui pourtant est probablement essentiel dans le futur de la vie de centaines de salariés et de centaines de milliers de salariés en France. Alors pour parler de cette question de la médecine du travail, on reçoit aujourd'hui donc Pascal Marie Chalard, sociologue qui étudie donc l'histoire de la médecine et des médecins du travail depuis le début des années 70, qui vient de publier un article dans la revue Politics, dans un numéro consacré à la santé et au travail. Un article donc intitulé « La médecine du travail sans les médecins ?» Un numéro d'ailleurs où on retrouve d'autres articles consacrés à cette question de la place des médecins, notamment dans les conflits du travail. En particulier, je pense à un article de Laure Pitty qu'on a déjà reçu dans cette émission, qui travaille sur l'engagement des médecins auprès de travailleurs immigrés en France. Alors on en revient maintenant à la question du jour, c'est celle de la place de la médecine du travail dans le futur des entreprises françaises, puisque à défaut d'avoir mis en place une grande réforme de la médecine du travail comme elle était annoncée par le gouvernement conservateur depuis quelques années, on a vu poindre un amendement à peine caché dans la réforme des retraites qui tendrait à modifier considérablement la place que va occuper la médecine du travail dans les entreprises françaises. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots quelle est la teneur de cet amendement et quels sont les enjeux ?
Oui, bien sûr. Alors bonjour et merci de l'invitation. Alors, cet amendement est devenu réalité aujourd'hui puisque la loi a finalement été votée par l'Assemblée nationale cet après-midi après avoir été votée par le Sénat hier. Donc maintenant, il ne reste plus que la promulgation par le président de la République et ça sera la loi du peuple français. Qu'est-ce qui change pour la médecine du travail ? Il y a plusieurs choses. Alors je vais peut-être faire une liste en essayant d'expliquer, de pas trop rentrer dans la technique de la réforme. Alors la loi prévoit que pour certains postes ou pour certains types d'emplois, comme les travailleurs saisonniers, les travailleurs qui sont amenés à se déplacer beaucoup pour leur travail en France, on puisse avoir recours à des médecins non spécialistes, donc des médecins qui ne seraient pas des médecins du travail, mais des médecins généralistes en général. La loi prévoit également un changement d'organisation des services de médecine du travail. Alors, c'est un changement qui peut avoir l'air... on peut avoir l'impression que c'est pour le mieux, parce qu'avant... Les services de médecine du travail, alors je vais peut-être repartir au début, expliquer ce que c'est que la médecine du travail, ce que c'était depuis le début, et pour voir comment ça change, parce que peut-être que tout le monde n'est pas familier de la médecine du travail en France. Alors, les médecins du travail sont des gens qui sont censés prévenir toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. C'est ce qui est indiqué dans la loi originelle de 1946, qui, en fait, comme l'ont montré les travaux d'historiens comme Paul-André Rosenthal et Jean-Claude Devinck, est très très proche de la loi qui avait été promulguée par Vichy en 1942. Elle reprend exactement la même structure pour les services. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, les médecins du travail ne sont pas fonctionnaires. Ils sont salariés de services, généralement des services inter-entreprises, qui sont des associations dont les adhérents sont des employeurs, d'un certain bassin d'emploi en général, mais ça peut aussi être d'une branche professionnelle donnée. Et ces services, donc jusqu'à aujourd'hui, étaient gérés par un conseil d'administration à 2/3 patronal, 1/3 salarié. Il y avait aussi ce qu'on appelait une commission de contrôle, où là c'était l'inverse, 2/3 salarié, 1/3 patronal, qui était chargé de contrôler donc, ce que faisait le conseil d'administration. Et là, ce qui a changé aujourd'hui c'est que l'organisation de services devient paritaire, moitié-moitié. Alors, paritaire, mais paritaire avec une drôle de définition de ce que c'est que le paritarisme.
Oui, parce que là, on pourrait se dire que c'est peut-être une avancée.
Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Mais il y a autant de représentants des employeurs que de représentants des salariés. Mais il se trouve que le directeur du service de santé au travail est choisi parmi les représentants des employeurs. Et la loi prévoit qu'en cas d'égalité des voix, il a une voix en plus, une voix prépondérante. Donc c'est paritaire, mais c'est avec une voix de plus pour les employeurs. Et la commission de contrôle, elle, disparaît. Donc disparaît une instance qui pouvait quand même, qui n'avait pas un vrai pouvoir, mais qui avait un pouvoir après coup. Vous pouvez voter des choses pour, par exemple, alerter l'inspection du travail, si jamais on avait l'impression qu'il y avait des pratiques pas légales qui étaient en train d'avoir lieu dans un service. Ça disparaît. Donc voilà pour le changement de l'organisation des services.
Okay.
Alors après, il y a beaucoup d'autres changements dans la loi qui concernent la santé au travail en général. Alors je vais essayer d'être bref. Il y a un dossier médical en santé au travail qui va être créé. Ça, c'est un nouveau truc. Ça aussi, ça peut avoir l'air bien. C'est l'idée que maintenant, on va faire une traçabilité des expositions professionnelles du salarié. C'est-à-dire que l'employeur va être obligé de dire pour chaque poste à quoi est exposé le salarié. Il va l'écrire sur une fiche. Ça sera mis dans un dossier confidentiel qui sera aussi renseigné par le médecin du travail. Et comme ça, le salarié pourra à terme, si jamais il a un cancer par exemple, montrer qu'il a été exposé à des produits cancérigènes et faire valoir l'origine professionnelle du cancer. Alors le seul hic, parce que c'est le diable est dans les détails comme d'habitude, c'est que ces expositions ne vont être prises en compte qu'à partir de l'année prochaine ou l'année d'après. C'est-à-dire, si vous avez un salarié qui travaille depuis 30 ans dans une boîte, qui va voir son médecin du travail l'année prochaine, le médecin du travail pourra dire « Depuis 6 mois, il est exposé à ce produit. » Mais il ne mettra pas « Depuis 30 ans, il est exposé à ce produit », alors que c'est ça la réalité. Ce qui veut dire que comme pour ces produits cancérogènes, par exemple, qui sont donc très courants, puisque plus de 2 millions de salariés sont exposés à des produits cancérogènes dans leur travail quotidien, on sait qu'il y a un délai de latence avant que le cancer arrive. Ça peut être 20 ans, 30 ans. Et donc, ça veut dire que tout ceci va permettre peut-être de faire mieux reconnaître les maladies professionnelles, mais seulement dans 20 ou 30 ans. Et pour les 20 ou 30 ans à venir, ça va surtout contribuer à effacer toutes les expositions jusqu'à maintenant. Puisque là, il n'y a pas de document. Et le seul document qui fera foi, ça sera ce carnet.
C'est-à-dire qu'actuellement, un salarié qui est exposé, quelle façon il a de reconnaître son exposition ?
Alors,
La médecine du travail, normalement, c'est son...
Il y a plusieurs choses. Un salarié qui est exposé, premièrement. Être exposé en soi, c'est pas considéré comme un crime, ou en tout cas, c'est pas traité comme si c'était un crime par la loi française. C'est-à-dire que tout le système français, c'est un système de gestion, de management de l'exposition au risque. Et donc, il y a une idée qu'il existe un risque acceptable. Et acceptable étant défini, bien sûr, non par le salarié, mais en général par l'employeur. Et donc, c'est un salarié qui aura une maladie qui pourra essayer de faire reconnaître que c'est une maladie d'origine professionnelle. Mmh. Et ça, c'est extrêmement difficile. Tous les travaux des historiens, des sociologues là-dessus montrent pour plein de maladies différentes. La silicose pour les mineurs, ou les cancers dus à l'amiante, ou les cancers dus aux poussières de bois, ou il y en a une liste infinie. Combien c'est difficile, parce que théoriquement, la charge de la preuve est à l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur doit prouver que ce n'est pas lié au travail. Mais en fait, pour qu'il y ait une automaticité de la reconnaissance pour le salarié, il faut que ça rentre dans des cases très 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 précises. C'est-à-dire il faut qu'il soit dans une entreprise dont la liste a été reconnue comme dans la liste des entreprises où il y a de l'amiante, qu'il ait été exposé pendant au moins 20 ans à un poste où on manipulait de l'amiante comme ça. C'est-à-dire s'il est dans le bureau à côté, bah, c'est moins bien. Voilà. Et donc en fait c'est extrêmement difficile. Donc c'est des procès. Voilà. Et il commence aussi à y avoir des procès, c'est vrai, pour des salariés qui ont simplement été exposés. Ça c'est très très récent. La justice a reconnu ce qu'ils appellent le préjudice d'anxiété. Des salariés qui ont été exposés à l'amiante, qui n'ont pas de maladie aujourd'hui, mais qui ont peur de mourir Et la justice a reconnu dans un cas, je crois que c'était avec Alstom, à Alstom, qu'ils avaient le droit à une compensation de ce préjudice-là.
Voilà. D'accord.
Voilà.
Donc ça, c'est les grands points de la réforme actuelle.
Ouais. Il y a aussi encore quelques points, mais enfin, disons... Moi, il y a le... Parce que c'est une réforme immense, en fait. Et quand on regarde la réforme, là, j'ai regardé donc, sur le site de l'Assemblée nationale cet après-midi le texte qui a finalement été voté, parce que ça change tout le temps. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la moitié du texte est sur la médecine du travail. Enfin, c'est immense. C'est immense.
Mais on n'en parle pas.
Mais on n'en parle pas beaucoup. Oui. Mmh. Voilà, on parle bien sûr des mesures d'âge, tout ça. Mais par exemple, la pénibilité. Ouais, la pénibilité, ça, on en a quand même beaucoup parlé. Mmh. Ça, c'est assez intéressant. Parce que, comme l'ont reconnu, comme l'ont dit la plupart des parlementaires de gauche à l'Assemblée et au Sénat, ce que l'UMP appelle la pénibilité, ce n'est pas la pénibilité, c'est l'invalidité. C'est-à-dire, la pénibilité. Le concept de pénibilité tel qu'il est reconnu par les chercheurs, c'est l'idée qu'il y a certains métiers plus pénibles que d'autres, donc on a plus de chances d'être usé plus tôt. Et qu'est-ce que ça veut dire usé? C'est un euphémisme, ça veut dire avoir des maladies, mourir plus tôt, être handicapé, avoir des accidents, etc. Et que fait l'UMP, qu'a fait avec cette loi? Il dit que pour être reconnu comme étant dans un métier pénible, il faut déjà être malade. Voilà. Alors, dans la loi finale, il est marqué que pour pouvoir partir à la retraite plus tôt, c'est-à-dire au même âge que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 60 ans, quand on a cotisé tous ces trimestres, pour pouvoir partir à la retraite plus tôt, un salarié devra soit montrer qu'il est invalide à plus de 20% selon le calcul de la sécurité sociale. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas, en gros la sécurité sociale, il y a des médecins qui sont comme des médecins d'assurance, ils ont des calculs très savants, où ils calculent combien vaut chaque partie du corps, combien vaut une insuffisance respiratoire, et ils additionnent les pourcentages, et ils arrivent à vous dire si vous êtes handicapé à 10%, 15%, 20%. Donc voilà, si on est plus de 20%, c'est bon, on peut partir. Et si on est en dessous de 20%, alors là, il va falloir passer devant une commission, où il va falloir montrer qu'on a été exposé à des produits dangereux pendant au moins un certain nombre d'années, qui va être déterminé par décret. Il n'a pas encore été déterminé. Donc au moins un certain nombre d'années. Et il va falloir prouver que si on est malade, c'est à cause de son travail. Ce qui peut prendre du temps. Parce qu'il suffit d'avoir un médecin contre un autre médecin. Votre médecin qui montre que c'est à cause de votre travail, mais la caisse d'assurance maladie ou la caisse d'assurance vieillesse en face, qui prend un médecin pour montrer qu'en fait non, ce n'est pas à cause de votre travail, c'est parce que
vous fumez
ou votre femme fume ou votre mari fume, ouais. Ou voilà. Et là, ça va être très très dur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour résumer, dans cette réforme, il y a à la fois une partie de démédicalisation de la prévention dans les services, puisque rien n'est fait pour conforter le rôle des médecins du travail. Et les médecins du travail sont une population vieillissante et en gros, on prévoit qu'ils vont tous disparaître dans les années qui viennent puisqu'ils ne sont pas renouvelés. Et d'autre part, il y a une remédicalisation de certains aspects comme la pénibilité, où on va donc devoir passer devant des commissions, prouver à chaque fois qu'on est vraiment malade pour pouvoir partir à la retraite.
Et dans ce débat à l'Assemblée nationale ou au Sénat, Est-ce qu'on a rencontré des oppositions à la fois politiques ou peut-être du corps social à l'égard de ces mesures?
Ah oui, les débats ont été très 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 intenses. C'est-à-dire ça, j'invite les auditeurs à aller sur les sites du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il y a le compte-rendu intégral des débats et c'est assez rigolo à lire en plus parce que tout est retranscrit, y compris les insultes, les haussements de sourcils, tout est retranscrit. Et là, on voit qu'il y a eu des vraies oppositions. Notamment de la part de certains députés, sénateurs, communistes, socialistes, qui sont en pointe sur la question. Mais également, il y a eu un très grand débat, c'était mercredi dernier, il y a une semaine exactement, sur la question de l'amiante. Parce que Éric Woerth, en personne, est venu au Sénat défendre l'idée que même les personnes qui étaient reconnues comme étant malades à cause de l'amiante aujourd'hui devraient partir à la retraite plus tard. Ça les concernait aussi. Et il voulait introduire des nouvelles conditions d'exposition à l'amiante. Il fallait montrer qu'on avait été exposé pendant au moins tant d'années dans un poste vraiment exposé. Et son argument, c'était que dans les entreprises où il y avait de l'amiante, il pouvait y avoir, par exemple, des gens à des métiers de bureau qui n'avaient pas été exposés directement. Alors qu'on sait qu'en fait, l'amiante, c'est une poussière très fine, ça passe sous les portes, ça passe partout. Enfin, c'est, voilà, dans un lieu, tout le monde est exposé. Mais bon. Donc, il est venu défendre cet amendement. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu une opposition de la majorité des sénateurs, c'est-à-dire de la droite, du centre et de la gauche. Il faut savoir que les gens qui ont fait la mission d'information du Sénat sur l'amiante sont des gens de toutes tendances. Il y a des centristes, il y a des communistes, des socialistes. Et là, c'est le seul amendement qui avait été proposé par les communistes qui a été voté par le Sénat. C'est un amendement supprimant cette mesure d'Éric Woerth visant à faire que les victimes de l'amiante partent elles aussi plus tard à la retraite. Voilà.
Ma question porte sur l'organisation des services de santé au travail. Le travail va mal dans notre pays. Sous la pression des actionnaires, des nouvelles méthodes de management et de la réduction des effectifs, les salariés souffrent. Cette situation ne concerne d'ailleurs pas exclusivement les entreprises privées, mais également la fonction publique et notamment les hôpitaux dont les salariés subissent votre politique dogmatique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Pour toute réponse, le gouvernement qui affirme pourtant depuis 2 ans faire de cette question une priorité se contente de commander des rapports et de suggérer aux grandes entreprises d'engager des négociations sur le stress au travail, sans d'ailleurs aucune sanction pour celles qui s'y refusent. On connaît l'importance de la médecine du travail pour prévenir et déceler les situations de souffrance. On connaît également les difficultés auxquelles sont confrontés les médecins du travail, liées notamment au manque de moyens et à leur trop grande dépendance vis-à-vis des employeurs dont ils sont les salariés. Face à ces problèmes, votre prédécesseur a engagé une réforme dont le contenu largement dicté par le MEDEF prévoit de restreindre les missions des médecins du travail et de renforcer leurs liens de dépendance. Les principaux syndicats de salariés, comme les médecins du travail eux-mêmes, se sont très majoritairement exprimés contre ce projet. Envisagez-vous, Monsieur le Ministre, de poursuivre la réforme entamée par votre prédécesseur ou allez-vous engager enfin une véritable concertation sur l'avenir de la médecine du travail pour former davantage de médecins, élargir leur champ de compétences et assurer leur autonomie vis-à-vis des employeurs?
Donc c'était Jacqueline Fraisse, députée communiste. C'était des débats à l'Assemblée nationale dont on parlait à l'instant avec Pascal Marie-Chalard. C'était au mois d'avril, donc voilà, pour donner une petite idée des débats. On se retrouve après une petite pause.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto-métro ou vélo vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Allez tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Prisonniers du boulot font pas de vieux os. travaillent comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout bas, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux.
Allez, encore une fois, bande de feignants là.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver.
Alors, moi j'aime bien panacher mes activités en fonction des milieux professionnels. Donc, par exemple, moi je travaille pour des grosses boîtes de transport routier. J'ai un peu tertiaire, compagnie d'assurance, tout ça. Et puis, j'ai des gens qui travaillent dans le monde du nettoyage et dans le monde du traiteur, c'est-à-dire de la restauration. Donc, et tous ces métiers-là peuvent créer de la pathologie diverse et variée. Donc, notre rôle idéal, c'est d'anticiper, c'est-à-dire de mettre en garde l'employeur pour que soit suffisamment aménager les postes pour que ça ne crée pas de pathologie. En réalité, c'est absolument l'inverse. On arrive, on constate de la patho et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Et nous, on n'a pas un rôle, on n'est pas inspection du travail, on ne peut pas imposer les choses. Par contre, une fois qu'on a fortement souligné les choses et qu'il y a des traces écrites, l'employeur a une obligation de se bouger et de faire quelque chose.
Allez, on est dans les oreilles loin du front, on est avec Pascal-Marie Chalard. Et donc, en réaction avec l'extrait qu'on vient d'entendre, on a envie de te demander, mais qu'est-ce que ça fait un médecin du travail, dans le fond ?
Bah, c'est la même question que je me pose dans ma recherche. Parce que, alors, on peut regarder la loi pour voir qu'est-ce qui est censé faire un médecin du travail, mais déjà, là, c'est pas très clair. Comme je disais tout à l'heure, il est censé prévenir toute altération de la santé du travailleur du fait de son travail. Alors ça a l'air bien. Si on regarde la suite de la phrase, il est rajouté, en fait, et ça c'est quelque chose que les gens ne regardent jamais, la suite de la phrase, notamment en veillant à ce que des salariés n'importent pas des maladies contagieuses dans l'établissement. Voilà. Donc, il a une mission, en fait, à l'aptitude aussi. On connaît, la plupart des salariés connaissent ça, la visite d'embauche, où on est déclaré apte ou inapte. Et l'aptitude, c'est un drôle de truc, c'est voir si vous êtes apte à votre poste de travail. En même temps, comme disent de nombreux médecins du travail, ils sont aussi censés voir si le poste de travail est apte à recevoir un salarié. Mais comme vous voyez, y a plein de missions contradictoires qui sont contenues dans la loi. Et en fait, les médecins, ils ont plein de façons différentes d'exercer leur métier. Et ça dépend du contexte d'exercice. Ça dépend. Est-ce qu'ils sont dans un service inter-entreprise, donc c'est la majorité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Ou est-ce qu'ils sont dans ce qu'on appelle un service autonome, c'est-à-dire dans une usine ou dans une seule entreprise. Ils ont leur bureau en face du DRH ou en face du patron ou à côté de je ne sais pas quoi. Voilà, ça c'est déjà ça change.
Ce sont dans les grandes entreprises qu'ils ont...
Alors ça c'est dans les grandes entreprises, oui. Dans la plupart des grandes entreprises, il y a des services autonomes.
Et excuse-moi, on a une idée de un médecin du travail, il doit en général, il a combien de salariés, il s'occupe de combien de salariés? Justement, ça dépend un peu peut-être de...
Alors, il y a des plafonds qui sont définis par la loi. Mmh. Et déjà, s'il faut que la loi définisse des plafonds, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Mais les plafonds, je ne me rappelle plus à leur niveau exact aujourd'hui, c'est plus de 3000, c'est-à-dire 3000 salariés par médecin du travail. Dans les faits, en fait, les plafonds sont dépassés dans la plupart des services inter-entreprises. C'est-à-dire que quand vous allez dans un congrès de médecins du travail, vous entendez des témoignages de gens qui disent « moi j'en ai 10 000, moi j'en ai 12 000 ». Donc qu'est-ce qu'ils font avec 10 000 salariés? Enfin, déjà, qu'est-ce qu'on fait avec 3 000 salariés? Le médecin du travail, il est censé faire, on va dire, deux choses principales. Il est censé faire les visites médicales. Ça peut être soit les visites d'embauche, soit les visites après un arrêt, soit les visites à la demande du salarié. Le salarié a toujours le droit de demander une visite avec le médecin du travail. Mais il y a aussi une autre activité du médecin du travail, c'est aller en entreprise pour voir les postes de travail et pour voir pourquoi les gens peuvent tomber malades, pourquoi il y a des risques d'accident et donner des conseils à l'employeur pour changer le poste de travail. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le tiers-temps parce qu'ils sont censés passer au moins là. Ils étaient censés passer au moins un tiers de leur temps à faire ça. Maintenant, je crois que c'est même plus. C'est plus calculé pareil, disons. Et voilà, donc ça, c'est les deux activités principales des médecins. Mais de fait, comme je vous disais, ça change selon le contexte d'exercice. Quand on est en service inter-entreprise, En général, les médecins que j'ai vus, moi, dans ma recherche, ils ont en charge 3000 salariés et 300 entreprises. Donc, dans l'année, ils ne vont pas pouvoir faire 3000 visites médicales. Donc, ils font des priorités. C'est-à-dire que... Et ces priorités sont autorisées par la loi depuis 2002. C'est-à-dire... On définit une catégorie de salariés qui sont dans des postes vraiment à risque. Eux, il faut les voir tous les ans, mais les autres, on a le droit de les voir tous les deux ans. Et même le patronat et la droite essayent périodiquement de faire que ça soit 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà. Et 300 entreprises, est-ce qu'on peut aller toutes les voir dans un an, en une année ? Non. Voilà, déjà juste, c'est, comme je vous disais, c'est un bassin géographique souvent, donc il faut se déplacer, il faut y aller. Et on n'est pas très efficace si on arrive dans une entreprise et qu'on repart une heure après. Donc ça ne sert à rien, on n'a pas eu le temps de voir les postes de travail. Donc ils choisissent quelques entreprises. En général, ils choisissent les plus grandes parce que là, quand ils arrivent, ils ont une action sur plus de gens. C'est comme tout le monde, ils ont envie de se sentir efficaces quand ils travaillent et donc ils font ça. Et donc c'est intéressant parce que c'est un service où toutes les entreprises cotisent, elles ont un forfait par salarié. Ouais, cotisent pour le suivi médical des salariés. Mais en fait, c'est surtout les grandes entreprises qui reçoivent le service. Voilà. Et alors, si on compare un service inter-entreprise et un service autonome qui est dans une seule grande entreprise, dans un service inter-entreprise, on va surtout mettre la pression sur les médecins pour qu'ils fassent leur visite médicale. Ça va être très important. Ils vont être obligés, ils vont avoir des objectifs 12 par demi-journée ou 15 par demi-journée. Et ça, c'est la chose qu'on leur impose. Alors que dans un service autonome, ils ont souvent moins de salariés à surveiller. Souvent, on les laisse un peu plus libres. Mais par contre, on leur demande de participer aussi au groupe de travail avec les cadres, avec le management, autour de divers thèmes de prévention, campagne de dépistage, etc. Voilà. Donc les médecins, il y a plein de façons différentes d'exercer le métier.
Est-ce qu'il existe des spécialités au sein de cette spécialité ? C'est-à-dire, est-ce que les médecins se répartissent les visites par branche d'activité professionnelle ? Est-ce qu'il y a des médecins spécialisés dans le je sais pas moi, pour les entreprises du tertiaire, d'autres pour la chaîne ?
Il ne faut pas croire que les médecins sont libres au sein d'un service de se répartir entre eux les entreprises comme ça. Il y a quand même une direction de service qui donc dépend des employeurs. Du bassin d'emploi, là. C'est elle qui décide de l'affectation des médecins. D'ailleurs, un des moyens de pression sur un médecin dont on n'est pas content, c'est de le muter à un autre secteur, etc., très loin de chez lui. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des médecins qui se spécialisent, qui vont trouver qu'ils sont intéressés par la problématique de l'amiante, qui vont se renseigner là-dessus, qui vont être reconnus comme spécialistes là-dessus, et donc même le directeur, après, va peut-être plutôt les mettre là-dessus. Voilà, ça dépend. Il y a des médecins qui sont plus intéressés par la souffrance psychique. Ça dépend des entreprises qu'on a dans son portefeuille, en fait. Si vous n'avez que des banques et du tertiaire, ça va être travail sur écran, souffrance psychique, troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire les postures de travail. Et éventuellement, il faut voir si vous êtes dans des locaux amiantés ou pas, mais voilà. Mais ça sera ça. Par contre, si dans une usine pharmaceutique, ça va être totalement différent. Ça va être du risque chimique, ce qu'on appelle le risque CMR, cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Voilà. Donc,
Les médecins du travail sont formés spécifiquement à la médecine du travail ?
Alors, ça, c'est intéressant aussi. C'est oui, en principe. Mais comme il y en a de moins en moins, il y a eu dans les 20 dernières années plein de dispositifs pour donner le titre de médecin du travail à des gens qui n'avaient pas été formés à la médecine du travail. Comme si ce qui comptait, c'était juste de mettre quelqu'un dans la case et à la limite... La spécialité en elle-même comptait pas trop du point de vue des pouvoirs publics, disons. Alors, c'est un peu comme pour les sans-papiers. C'est-à-dire, on a eu des médecins sans-papiers dans les années 90, des médecins généralistes qui étaient employés dans des services de santé au travail, comme médecins du travail, alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire parce qu'ils n'étaient pas spécialistes. Et la direction du travail le savait, c'est-à-dire le ministère du travail le savait, mais fermait les yeux, parce qu'il y a une pénurie, on est bien obligé. Et il y a eu... trois vagues de régularisation dans les années 90. Ils appelaient ça les vagues de régularisation. On a donné le titre de médecin du travail à des gens, à ces gens-là, en disant vu qu'ils l'exercent maintenant, ils sont médecins du travail de fait. Et donc, on leur donne le titre. Voilà. Vous voyez, c'est intéressant. On les met dans un poste de médecin du travail, ils ne le sont pas. Mais après, une fois qu'ils sont dans le poste, ils le sont, donc on leur donne le titre. C'est pas pour dire que ces gens-là exercent moins bien la médecine du travail. Moi, j'ai aucune compétence pour juger de ça. Je ne suis pas du tout médecin, ni je n'ai pas fait d'études médicales. Mais ce qui est sûr, c'est que du point de vue des pouvoirs publics, la spécialisation, c'est quelque chose d'un peu annexe. Et avec la réforme qui est en ce moment, comme je vous disais, il y a des dispositions pour recourir à des médecins généralistes. Ils avaient déjà essayé de faire ça en 2000. Ça n'avait pas marché. Et là, ils l'ont refait. Et ils le font juste pour certaines catégories de salariés, mais ça sera sans doute appelé à être étendu. Et le problème avec un médecin non spécialiste, c'est que il y a une vraie compétence quand même de la médecine du travail. C'est-à-dire, quand on vous donne un nom de poste dans une usine, le médecin du travail, il va savoir, s'il a déjà été dans cette usine, à quel genre de risque vous êtes exposé. Juste comme ça, en donnant le nom. Le médecin généraliste, il n'a pas de raison de savoir, sauf s'il connaît quelqu'un dans une usine comme ça. Mais les maladies elles-mêmes, les maladies qu'on fréquente, disons, en médecine du travail, sont très différentes de celles que les médecins généralistes sont habitués à voir. Pour le dire autrement, les médecins généralistes ne sont pas très habitués à se demander si les maladies de leurs patients ont des causes professionnelles. Voilà.
Oui, parce que je ne connais pas très bien les médecins, mais a priori, je me dis quand même qu'ils viennent de milieux sociaux plutôt favorisés. Et donc, le monde du travail, des catégories plus populaires, des employés, des ouvriers, etc., ça doit leur être quand même assez étranger. J'imagine qu'ils ne connaissent pas du tout l'usine quand ils arrivent. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont des cours, par exemple, quand ils sont formés là-dessus ?
Quand on fait la formation de médecine du travail à l'université, c'est-à-dire dans la formation initiale, quand on spécialise là-dedans, on a des stages là, d'internat dans des services de médecine du travail. Ben, c'est même pas obligatoirement des services de médecine du travail, d'ailleurs, mais bon, on est obligé quand même d'en faire un ou deux dans des services de médecine du travail. Mais là, non, il n'y a pas de cours, il n'y a pas vraiment de cours. On apprend sur le tas, on y va. Et soit vous trouvez un autre médecin ou alors un salarié compétent qui vous explique exactement quels sont les risques dans l'entreprise. Soit vous avez trouvé le bon livre, soit vous avez, vous tâtonnez.
Mais ce déplacement, disons, de ce que tu évoques sur la médecine du travail qui se déplace vers la médecine générale, en tout cas la volonté de déplacer ces consultations vers la médecine générale, est-ce que ça signifie vraiment que les médecins du travail, pour les entreprises, sont des personnes à éliminer, à éviter, parce qu'elles sont dangereuses pour elles, ou parce qu'il ne me semble pas que les médecins du travail, de quel côté ils sont ? Ils sont plutôt du côté de l'employeur ou du côté des salariés ? Tu disais tout à l'heure... qui veulent se sentir efficaces quand ils arrivent dans une entreprise, donc ils vont dans des grandes entreprises où il y a beaucoup de monde pour être efficaces, mais ils veulent être efficaces justement sur qui, quoi ? Ils sont bien obligés de choisir un camp ou comment ça se passe ?
Alors, est-ce qu'ils sont obligés de choisir un camp ou pas ? Alors, ça, c'est compliqué. C'est vraiment il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une réponse claire, en tout cas. On ne peut pas dire que la profession en elle-même est biaisée d'un côté ou de l'autre.
D'accord.
Ça, c'est pas possible.
Justement, par leurs origines sociales, on pourrait penser qu'ils sont plutôt du côté d'emblée, naturellement, disons, du côté des patrons.
On pourrait penser ça,
mais
en même temps, on pourrait aussi, je vais pas trancher, on pourrait aussi dire que, en gros, ils ont les origines sociales les plus modestes parmi l'ensemble des médecins.
D'accord.
C'est-à-dire, alors ça, je vous dis ça, c'est pas quelque chose, j'ai pas les chiffres, la preuve scientifique, j'ai beaucoup de choses qui m'incitent à le penser au fur et à mesure, j'ai pas encore vraiment les bonnes statistiques là-dessus, parce qu'il y en a pas beaucoup, mais assez clairement, voilà, c'est... Il faut savoir que la médecine du travail, c'est la spécialité la moins bien classée à l'internat en général. Il y a une très très mauvaise réputation de la médecine du travail. C'est parmi les étudiants en médecine, c'est considéré comme un boulot de planqué, un boulot qui sert à rien, voilà, etc. On peut aller sur internet, sur les forums d'étudiants en médecine, et on voit tout ce qu'on peut dire de mal sur la médecine du travail. Et donc rares sont les gens qui l'ont choisi vraiment. Souvent, c'est ceux qui sont en bas du classement. Et il se trouve, par un phénomène qu'on connaît en sociologie de l'éducation, que souvent il y a un lien avec les origines sociales, entre les classements et les origines sociales, les classements scolaires et les origines sociales. Et les études de médecine sélectionnent socialement, c'est-à-dire plus vous avancez dans les études de médecine, moins il y a d'enfants d'ouvriers, d'enfants d'employés, etc. Mais les spécialités aussi ont un recrutement social différent. Alors je crois que ça peut aussi jouer. C'est-à-dire j'ai vu des médecins du travail... qui étaient enfants d'ouvriers ou issus, disons, de catégories sociales populaires, qui voulaient aussi se démarquer des autres médecins avec qui ils avaient fait leurs études, qui considéraient comme des fils à papa, etc. Voilà. Je ne peux pas vraiment trancher sur la question des origines sociales. D'accord.
Et du coup, sur leur, est-ce qu'il y a vraiment une volonté d'éliminer ces médecins
Alors, ça dépend encore le contexte. C'est-à-dire que il faut savoir que le rapport d'un médecin du travail à une direction d'entreprise, ça peut être très variable. Alors, déjà, il faut distinguer entre service inter-entreprise et service autonome encore. Parce que il faut comprendre que dans une entreprise, pour n'importe quelle entreprise, quand un médecin du travail arrive, il sait qu'il est dans un champ conflictuel et qu'il risque très vite d'être pris entre plusieurs feux. Les salariés qui vont l'accuser d'être pro-patronal et l'employeur qui va l'accuser d'être un rouge pro-salarié. Ça, c'est compliqué. Dans un service inter-entreprise, il y a une possibilité de ne pas vraiment rentrer dans ce jeu. Vu qu'on a les 300 entreprises, là, comme je vous disais, en moyenne, à surveiller, si on n'aime pas le conflit, on peut ne pas rentrer dans le conflit, juste voir des salariés qui viennent dans votre bureau et pas trop s'immiscer dans les problématiques locales d'une seule entreprise. On peut ne pas rentrer là-dedans. Par contre, quand on est dans une seule entreprise ou dans une grande entreprise ou quand disons, une entreprise représente la majorité des salariés dont on a la charge, là, on est un peu obligé d'être dans le conflit, quoi. On est obligé d'avoir une position. On est pris à partie. Et alors, il y a de tout. Il y a des médecins moi, j'ai rencontré un médecin qui était dans le comité exécutif de son entreprise. C'est-à-dire, il siégeait dans un comité tous les quelques mois et il décidait avec le directeur de quel salarié allait avoir sa prime à la fin de l'année. Voilà. Donc lui, bien sûr, il est totalement avec le management en train de faire le même boulot qu'eux. Après, vous avez d'autres médecins qui font tout pour faire reconnaître les maladies professionnelles qui existent dans une entreprise, pour engager la responsabilité de l'employeur, qui écrivent des formulaires, qui écrivent des lettres à l'inspection du travail, qui écrivent du papier, qui, comme on dit en droit, produisent du papier pour qu'il y ait quelque chose à mettre dans le dossier juridique du salarié. Et cela, bien sûr, alors là, il y a des cas de pression, de licenciement, voilà. Donc ça dépend vraiment. Ça dépend du contexte d'exercice et aussi des préférences du médecin du travail. Donc qui dépendent de son origine sociale, de sa socialisation en général.
Tu disais qu'il y avait des pressions et qu'ils pouvaient être licenciés. Ils ne sont pas du tout protégés, en fait, ces médecins?
Si, ils sont protégés. Alors, ils sont protégés. Mais le licenciement, c'est vraiment le cas extrême. Mais comme j'ai été amené à m'intéresser à des archives de contentieux de syndicats de médecins du travail, j'en ai quand même vu passer pas mal. Mais il y a plein d'autres types de pressions qui existent en dessous du licenciement. Ça peut être, par exemple, un médecin qui vous explique qu'il a demandé pendant des mois des pochettes cartonnées pour pouvoir ranger ses dossiers médicaux et on ne lui a jamais donné. Alors, on ne lui a jamais dit non, mais on ne lui a pas donné. Et donc, chaque fois, il retourne. Et il se trouve qu'il faut aller à la DRH pour demander parce que c'est eux qui gèrent les fournitures. Et voilà. Et on ne lui donne pas ça. Ou pour les congés, quand on place les congés, ce n'est pas accepté par l'employeur. Ou alors... les salariés avec qui vous travaillez, normalement le médecin du travail a le droit de choisir les salariés avec qui il travaille, mais certains sont imposés et tout, voilà. Il y a plein de moyens de pression différents sur les médecins du travail. La mutation géographique aussi, comme je disais tout à l'heure. So
Métier de travail que les deux endroits où il y a le plus de harcèlement moral et tout, c'est la grande distribution et c'est le milieu de la fonction publique. Et c'est pour les mêmes raisons, c'est parce qu'il y a une double hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie officielle, puis une hiérarchie de proximité, qui est un peu autonome et qui fait ce qu'il veut. Il faut écraser un peu les autres ou faire la lâche à son chef pour monter, et une fois qu'on monte, on va vous tenir parce que vous aurez fait des choses qui n'étaient pas nettes, donc on va vous tenir comme ça, et voilà. Donc c'est absolument invivable. Et ils ont des méthodes fascisantes. Hein.
Vous êtes bien sûr, vous êtes toujours bien sur Fréquence Paris Pluriel. Vous écoutez Les Oreilles Loin du Front jusqu'à 20h30. On est ce soir avec Pascal Marie-Chalard. Et on parle de la médecine du travail, la médecine du travail sans les médecins. On parle de la démédicalisation, on va revenir sur tout ça. Et on parlait tout à l'heure de la notion que beaucoup de gens connaissent lorsqu'ils passent une visite médicale d'embauche, qui est la notion d'aptitude, ou la fameuse case qu'il faut remettre tout de suite sur son lieu de travail pour savoir si on est apte ou inapte à la fonction effectuée. Justement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion d'aptitude ? Est-ce que c'est juste on en parlait tout à l'heure, l'aptitude de la personne, l'aptitude du poste à la personne ?
Oui. Là, on peut faire un petit retour en arrière historique, puisque comme l'ont montré les historiens dont je parlais tout à l'heure, Rosenthal et Devinck, il y a vraiment une origine de la médecine du travail sous Vichy, donc en 1942. Il y a une loi de 1942 qui organise pour la première fois les services de médecine du travail. Et les nouveaux médecins du travail qui ont été créés, disons, à cette époque-là, quelle a été l'une de leurs premières missions ? C'était la sélection des travailleurs envoyés au service du travail obligatoire. C'est-à-dire, envoyés en Allemagne. Et donc, bien sûr, ça a un petit peu entaché la réputation de la profession à l'époque. C'est-à-dire que les gens s'en sont souvenus. Ils ont une certaine mémoire.
Ça marque.
Mais encore aujourd'hui... Alors, bien sûr, donc ça, c'est un des aspects de la médecine du travail. Mais comme je vous disais, il y a d'autres aspects. Il y a des gens qui disent aussi que l'aptitude, c'est quelque chose qui protège le salarié. Parce que si vous voyez qu'un salarié par exemple, qu'une femme enceinte et qu'elle va être exposée à des solvants, vous allez la mettre inapte à ce poste-là parce que vous savez que les solvants, c'est très mauvais pour son enfant. Voilà. Il y a des gens qui disent ça aussi. Donc, c'est assez compliqué. Je peux donner quelques anecdotes de médecins aujourd'hui pour voir les différentes attitudes vis-à-vis de l'aptitude. Alors, un médecin que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui est dans une entreprise chimique, lui, il me racontait qu'il a commencé la médecine du travail à son service militaire. Il dit, en fait, moi, ça fait longtemps que je fais de la médecine du travail, puisque dès le service militaire, j'en ai fait. J'étais au centre de sélection donc des soldats. Et j'étais chargé de faire le CIGICOP, c'est-à-dire c'est le sigle, c'est membre supérieur, inférieur, je crois état général, P c'est psychique, je m'en rappelle plus. Voilà. C'est-à-dire voir l'état de la personne et voir si en gros il est apte à entrer dans l'armée ou pas, faire son service militaire ou pas. Voilà. Et pour lui, c'était la médecine du travail. Il disait ça vraiment sans aucune ironie. Il disait, moi je fais pareil aujourd'hui dans mon entreprise chimique. Mais après, un autre médecin du travail, alors ça c'est une anecdote un peu plus longue, mais c'est assez intéressant, qui travaillait dans une entreprise publique d'énergie, et il n'y en a pas des masses,
non.
Et mais bon, lui, il serait, enfin, je donne pas son nom comme ça parce que je lui ai pas demandé avant, mais ça, je crois que ça le gênerait pas trop. Il m'expliquait que à un moment, il travaillait pour dans un centre d'appel de cette entreprise, et donc il fait une visite d'aptitude et il se rend compte qu'une des salariées qui vient le voir est totalement sourde et qu'en fait, elle est en train de lire sur ses lèvres depuis le début de l'entretien. Et donc là, à un moment, il lui dit, bon, je viens de voir que, voilà, je vois bien que quand je me cache la bouche, vous entendez pas ce que je dis. Donc, je vois bien que vous êtes totalement sourde. Or, vous savez que là, le métier, c'est un centre d'appel. Vous allez décrocher le téléphone. Vous allez parler au téléphone. Et là, la salariée lui dit, ah là là, docteur, c'est terrible. Bah, je comprends, vous allez me mettre inapte. Ça m'est déjà arrivé dans plein de métiers. Voilà, j'arrive pas à trouver le boulot parce qu'on met inapte comme ça. Et lui, il dit, mais non, je crois pas que je vais vous mettre inapte parce que si on regarde les textes, à quoi sert l'aptitude ? Enfin, quel est mon métier plutôt ? Il dit, c'est prévenir toute altération de la santé du travailleur du fait de son travail. Or là, je vois pas en quoi le fait de répondre au téléphone quand vous êtes sourde va endommager votre état de santé. Ça a aucun risque pour vous. Vous êtes totalement apte à ce métier. Donc il a mis zap. Et donc, pas très longtemps après, il a reçu un appel furieux du directeur du centre d'appel. Qui lui dit, mais vous êtes nul comme médecin, vous n'avez même pas vu qu'elle était sourde. Vous n'avez même pas vu qu'elle était sourde. Et lui, il a dit, mais non, c'est vous qui êtes nul comme directeur, parce que c'est vous, lors de l'embauche, qui étiez. Enfin, c'était votre boulot de voir si elle était compétente pour le boulot auquel vous vouliez l'affecter. Moi, je ne suis pas là pour la compétence, moi, je suis là pour la santé. Donc, moi, je me suis occupé de la santé, elle était totalement apte du point de vue de la santé. Et cette histoire. Je l'ai raconté, chaque fois que je rencontre un médecin du travail, je lui raconte comme ça pour voir un peu quelle est sa réaction. La très grande majorité, ils disent, mais il est fou, lui. Ils disent, mais non, mais on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire ça comme ça. Il a peut-être raison en principe, mais quand même, si elle est sourde, il faut la mettre inapte. Vous voyez, c'est... Alors, les médecins du travail, il y en a beaucoup, ils sont tout le temps en train d'essayer de distinguer comme ça, parce que leur mission est tellement contradictoire. Distinguer qu'est-ce qui est leur domaine réservé et qu'est-ce qu'ils ne sont pas censés faire. Ça, voilà. Mais l'aptitude, pour terminer là-dessus, il y a un universitaire en médecine du travail qui s'appelle Philippe Davy, qui est à Lyon. Il a écrit un texte où il explique comment l'aptitude, c'est devenu aussi un permis de tuer. Il utilise l'expression permis de tuer pour les employeurs, puisque à partir du moment où on met un salarié apte, l'employeur s'imagine qu'on peut l'exposer à plein de produits différents. Ou à des situations de travail dangereuses où il y a des risques d'accident. Et quelquefois, quand il y a un accident qui arrive, quelle est la défense de l'employeur ? En fait, tout le temps, quand il y a un accident qui arrive, quelle est la défense de l'employeur ? C'est de dire, ah, mais le médecin l'avait mis apte. Moi, je me disais que je ne m'étais pas inquiété particulièrement. Par exemple, pour les histoires de suicide professionnel à Renault ou à France Télécom, moi, j'ai vu les arrêts, les décisions de justice pour certains suicides de Renault, certains suicides récents, c'est tout le temps la défense des avocats de l'employeur. C'est de dire, le médecin l'avait mis apte, nous on ne s'inquiétait pas, on se disait qu'il allait bien psychiquement, or il se trouve qu'il était fragile, c'est la faute du médecin.
Voilà. Et sa responsabilité est engagée dans ces cas-là ?
Alors, est-ce que la responsabilité du médecin est engagée ? La responsabilité du médecin est engagée, en fait, seulement... Si vraiment il a fait une erreur, c'est-à-dire il était censé, par exemple, si vous êtes exposé au benzène, il y a un décret qui dit, donc benzène c'est un produit très, très, très toxique, un solvant, et si vous êtes exposé au benzène, il y a un décret qui dit qu'on est censé mesurer pas mal de niveaux de globules blancs dans le sang, bah, si le médecin ne fait pas cet examen-là, et qu'après la personne a un cancer, là le médecin est responsable. Voilà. Oui. Après, sinon, non. Dans les autres cas, le médecin peut se dégager sa responsabilité et dire non, c'est pas ma faute à moi. C'est moi. Enfin, s'il n'y avait pas une pathologie évidente qu'il n'avait pas vue, voilà. Ça, c'est là le débat, disons, dans toutes ces décisions de toutes ces affaires judiciaires. C'est est-ce que le salarié était déjà malade avant d'arriver ou est-ce que il est malade à cause de son boulot actuel. Ça, c'est le grand débat. C'est là-dessus toujours qu'aiguillent les avocats de l'employeur.
Si je prends le cas d'une industrie lourde, quand on embauche un ouvrier, on peut le déclarer apte, mettons, au poste d'entrée, ouais. Souvent le plus simple. Mais souvent, quand même, les gens changent de poste au cours de leur carrière, ouais. Plus ou moins vite, en fonction des politiques, de polyvalence, etc. Est-ce que là, du coup, les salariés doivent être systématiquement redéclarés aptes à chaque poste ou c'est une forme d'aptitude pour l'ensemble de
l'usine ? Non,
non,
en principe, c'est pour chaque poste. Il y a un examen d'aptitude.
Et dans les faits aussi ?
Dans les faits, oui. Dans les faits aussi, mais comment dire, la visite d'aptitude peut arriver 2 ans après que vous ayez été embauché dans le nouveau poste parce qu'il y a des délais. Donc, dans les faits, en fait, c'est pas si bien que ça.
Et de la même façon, peut-être pour les travailleurs précaires ou les intérimaires qui effectuent plusieurs fois le même travail sur, au sein de peut-être des entreprises différentes, est-ce que la visite d'aptitude, elle est systématique auprès de chaque employeur ou est-ce qu'il y a un bon qui est valable pour 2 ans sur tel poste, peu importe l'entreprise avec laquelle on travaille ?
Alors ça, c'est très compliqué. Ça dépend les entreprises, les bassins d'emploi, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les salariés intérimaires sont très, très mal suivis. Il y a des médecins, voilà, le médecin de l'entreprise donneuse d'ordre va dire « c'est pas mon boulot de les voir ». C'est normalement le médecin qui suit l'entreprise de travail temporaire qui est censé les voir. Mais le médecin qui suit l'entreprise de travail temporaire n'a pas le droit d'aller sur le lieu de travail puisque ce n'est pas dans l'entreprise de travail temporaire, c'est dans une autre entreprise et il faut qu'il demande l'autorisation, qu'il n'a pas tout le temps. Enfin, ou même il ne le fait pas en général, il ne demande pas parce qu'il a trop de choses à faire. Il y a trop de gens à voir qui vont dans différentes entreprises. Comme les missions changent tout le temps, bien sûr, en fait, l'avis d'aptitude, ça va être un avis un peu général pour un certain temps. Donc là, ils sont très, très, très mal suivis. Quoi. Mais ça, c'est les travaux de... Je pense à une sociologue, Anita Boumoni, depuis des années, qui montre, notamment elle a, avec d'autres, pour les travailleurs du nucléaire, pourquoi est-ce qu'on a eu recours à la sous-traitance ? Très clairement, parce que tant que c'était des salariés d'EDF, ils étaient suivis par la médecine du travail, à partir du moment où c'est des sous-traitants, ils sont beaucoup moins suivis, et surtout, ce n'est pas la responsabilité d'EDF, si jamais il y a un problème. C'est la responsabilité de l'entreprise sous-traitant. Voilà, donc... la plupart des études montrent que c'est eux qui concentrent la plupart des facteurs de risque dans les entreprises.
Et tu as pu rencontrer des cas d'espèces de médecins du travail qui parvenaient, par exemple, à faire modifier un poste de travail
Oui, oui. Alors, ça dépend. En fait, vous avez des attitudes très différentes selon les médecins. Et selon le contexte, encore une fois, puisque quelquefois, il y en a un, il m'avait dit « Moi, je me définis comme éducateur patronal ». C'est comme ça qu'il définit son métier. Alors moi, je lui explique tranquillement, et voilà. Et de fait, dans la loi, il est marqué que le médecin du travail est conseiller de l'employeur, des salariés, des services sociaux, etc. Il n'a pas de pouvoir, mais il est conseiller. Donc lui, il essaye de montrer, et souvent les médecins utilisent l'argument économique en disant ça vous coûtera moins cher si vous faites changer ce poste de travail et que vous n'avez pas de maladie professionnelle à déclarer. Ça, c'est joli, mais... Il y a des industries, en fait, où ça coûtera plus cher. Il y a des industries où qui seraient plus du tout rentables si on prenait en compte les effets de la santé sur le salarié, les effets du travail sur le salarié. Donc, voilà. Donc, quelquefois, ils vont un peu dans ce sens-là, mais en fait, ça ne marche pas toujours, l'argument économie. Après, il y a d'autres... Le seul moyen pour faire bouger l'employeur, c'est d'aller vraiment faire la méthode conflictuelle, c'est-à-dire... envoyer une lettre à l'employeur en copie à l'inspection du travail, en disant tel poste est dangereux, il y a un risque pour le salarié, veuillez me répondre dans un délai de tant de jours pour dire qu'est-ce que vous allez faire. Et après, il renvoie une lettre 3 mois plus tard, j'acte le fait que vous n'avez pas répondu. Et voilà. Après, ils se dégagent leur propre responsabilité, disons. Mais comme quelquefois, ça fait peur à l'employeur, alors ils changent le poste. Et après, il y a des employeurs aussi qui comprennent quoi. Il y a des employeurs qui sont soucieux de la santé de leurs salariés et qui vont essayer de faire en sorte que ça aille pour le mieux. Mais de toute façon, la question n'est pas de savoir si les employeurs sont gentils ou méchants. C'est plutôt que, en fait, ils sont dans une situation économique qui les pousse vers un certain comportement et ils ont plein de choses à faire qui font que ça va peut-être pas être la priorité des priorités de regarder la santé des travailleurs, surtout pour des expositions un peu invisibles qui vont avoir des résultats sur la santé dans 20 ou 30 ans. Et donc, même un employeur entre guillemets gentil ou soucieux de la santé du salarié, il s'en occupera pas trop. Et donc c'est pour ça que ce qui est important, c'est la structure de la loi, disons la structure créée par la loi pour créer un jeu d'incitation pour que l'employeur ne puisse pas se désintéresser de la santé des salariés.
Alors il nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement. Moi, je voulais qu'on aborde aussi la question de la pluridisciplinarité de cette de ce qui est en train de devenir la médecine du travail. Tu parles de démédicalisation, donc les médecins sortent, enfin on sort les médecins de cette de ce suivi du salarié pour le confier à des gens qui sont pas médecins et ou en tout cas pas que médecins. En quoi cette pluridisciplinarité, qui donc on voit il y a des je sais pas des assistants sociaux, des ergothérapeutes, des psychologues, en quoi ça nuit au suivi du salarié? Je sais pas, que je comprends pas, parce que c'est quelque chose que tu
expliques, mais comment dire, c'est pas la pluridisciplinarité en soi qui nuit à la santé du salarié. C'est sûr que c'est pas comme ça. Alors la démédicalisation, déjà, c'est pas un terme de moi, c'est un terme patronal qui a été forgé dans les années 80. Il y a un rapport que j'avais trouvé dans mes recherches, qui est un rapport fait par l'organisation patronale qui coordonne tous les directeurs de services de médecine du travail en France. Voilà. Donc, ils sont à peu près 300 directeurs, surtout de services inter-entreprises, en fait. C'est un organisme qui s'appelle le CISM. Et dans ce rapport, en 87, c'est un rapport qui s'appelait « L'avenir de la médecine du travail », où ils essayaient de voir, à l'horizon de l'an 2000, comment devrait évoluer la médecine du travail. Et c'est là qu'ils utilisent deux termes, démédicalisation et hypomédicalisation, en disant qu'en gros, le système français de prévention est trop centré sur les médecins. Et ils disent aussi que c'est trop pathologiste. On s'intéresse trop aux maladies. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ils expliquent plus loin que les médecins ne devraient pas consacrer leur temps de travail à faire les déclarations de maladies professionnelles, parce qu'ils sont là pour faire de la prévention. Ils ne sont pas là pour faire les déclarations de maladies professionnelles. C'est ça qui gênait cette organisation à l'époque. Et donc, ils disent, à la fin de leur rapport, ce qu'il faut, c'est un système avec moins de médecins, plus d'infirmières, plus d'ergonomes, plus de services sociaux en général, et plus même d'intervenants de toutes sortes, qui pourront être très divers, qui pourront exceller la liste des intervenants prévus, disons, par la réglementation. Alors, pourquoi cette volonté de démédicaliser à ce moment-là? Et on peut l'interpréter, moi c'est comme ça que je l'interprète, comme une réaction à une période, les années 70, où il y avait eu beaucoup de contentieux avec des médecins du travail qui estimaient que bien faire leur travail, c'était déclarer des maladies professionnelles. Voilà. Où l'affaire de l'amiante avait commencé un petit peu à éclater. Première affaire à Jussieu en 75, un premier décret à la fin des années 70 qui introduit des mesures seuil d'amiante, c'est-à-dire il ne faut pas que ça dépasse un certain nombre de fibres d'amiante par litre d'air. Et voilà, les employeurs ont eu peur, sans doute, pour leur responsabilité pénale, leur responsabilité civile aussi, les indemnisations qu'ils auraient à fournir, et en général, du coût des médecins du travail. Et de fait, si on compare les années 80 et aujourd'hui, on peut voir que la profession est allée en vieillissant, s'amenuisant. Aujourd'hui, il y a à peu près 6000 médecins du travail, et 75% ont plus de 50 ans. Et ils ne sont pas assez renouvelés. C'est-à-dire que, je ne sais pas exactement quel est le chiffre, mais en général, au concours de l'internat, les médecins du travail qui sont formés chaque année, ça se compte en quelques dizaines. Ça change chaque année, selon le décret, mais c'est quelques dizaines. Ce n'est pas ça qui va renouveler la profession. Et alors, comment est-ce que tout ça est passé? C'est passé avec le mot d'ordre de la pluridisciplinarité, la santé au travail aussi. On ne parle plus de médecine du travail, on parle de santé au travail. On parle de services de santé au travail. L'idée que les médecins ne peuvent pas agir tout seuls et ça serait bien que leurs compétences soient complétées par d'autres compétences, celles justement des ergonomes, des différents techniciens, ingénieurs qui mesurent, je sais pas, la poussière dans l'air, qui la luminosité, le son, voilà, etc. D'infirmières, d'assistantes sociales. Voilà. Il y a plein de d'autres compétences comme ça qui sont proposées. La très grande majorité des médecins sont en faveur de la pluridisciplinarité, parce qu'ils trouvent que c'est très bien d'être complété comme ça par d'autres spécialités. Mais qu'est-ce qu'on peut dire quand on tire le bilan des 20 dernières années? On peut dire qu'il y a eu une confusion grandissante, premièrement, entre les obligations de l'employeur et la prévention des atteintes à la santé du salarié. Le médecin du travail, lui, son boulot, c'était juste, normalement, d'après la loi, prévenir toute altération de la santé du travailleur du fait de son travail. Donc, il s'occupe de la santé du salarié. Et il a une approche individuelle, centrée sur une personne. tous ces pluridisciplinaires, eux, ils en approchent plus sur le lieu de travail, où ils essayent de réduire le risque dans l'environnement de travail. Alors, bien sûr, ça, les deux approches sont complémentaires, c'est sûr. Mais il se trouve que les employeurs utilisent beaucoup les pluridisciplinaires pour réduire leur propre risque juridique, pour montrer en fait qu'ils ont pris des mesures, ils ont engagé des plans de mesure de la poussière, etc. Et on a aussi besoin de médecins du travail pour voir les effets sur la santé des personnes, parce que tous ces autres intervenants, ils s'intéressent moins aux personnes pour la plupart d'entre eux. Ils s'intéressent beaucoup à l'environnement du travail. Et les gens qui s'intéressent aux effets sur les personnes, qui s'intéressent à déclarer les maladies professionnelles, qui est une vraie compétence. Les généralistes, il y en a beaucoup, ils ne savent pas faire. Voilà. Ben ça, il y en a de moins en moins. Donc c'est juste ça, disons, la grande différence, le grand changement qui est en train d'avoir lieu. C'est les employeurs se concentrent sur réduire les risques juridiques pour eux. Alors, réduire les risques dans les risques du travail, mais surtout montrer qu'ils ont fait quelque chose et la santé du salarié passe au second plan.
Juste peut-être, il y a un point que je voulais avoir ton avis là-dessus. Parce que quand on lit l'article de Politics sur lequel on vous renvoie, on en reparlera à toute fin de l'émission, on voit qu'il y a un parallèle entre l'augmentation de l'implication, l'implication du CNPF puis du MEDEF dans les réformes et en même temps une diminution du numerus clausus. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que la désertion des médecins pour la spécialité de la médecine du travail, c'est une révolte contre la perte d'autonomie Tu vois ce que je veux dire?
Alors, ouais.
Ils sont tellement conscients qu'ils ne sont plus médecins. En même temps, j'ai vu que le Conseil de l'Ordre des médecins s'était aussi inquiété de la loi. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais certainement pas la même que...
Ils ont été saisis par des organisations de médecins du travail, en fait.
Ah, d'accord.
Donc, ils ont été obligés de répondre et ils ont répondu.
Sinon, oui, ils n'avaient pas d'intérêt.
Pas forcément. Bah oui, je ne sais pas. Mais non, il y a des... Le Conseil de l'Ordre, il a eu des positions différentes, quelquefois assez contraires aux intérêts de certains médecins du travail et quelquefois en faveur. Voilà, mais bon, c'est pas, comme on sait, c'est aussi une organisation qui n'a pas été créée à la meilleure époque de l'histoire de France, donc, qui a aussi été créée au même moment que la médecine du travail, en fait, sous Vichy, et qui peut concentrer des poches de conservatisme, disons.
Oui, non, je disais que c'était une organisation révolutionnaire. Hein.
Mais est-ce que la désaffection pour la médecine du travail est une désaffection pour une profession qui manque d'autonomie ? Oui, ça, c'est sûr que ça doit participer. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une lecture politique de la part des jeunes étudiants en médecine. Mais c'est plutôt, ils savent que c'est quoi comme métier. C'est un métier où il faut faire 15 consultations par demi-journée et que ce n'est pas du tout valorisé. Mais ce n'est pas valorisé depuis le début.
Avec des revenus moindres aussi.
Alors ça, non, pas du tout. Ça, il y a beaucoup de médecins qui s'intéressent à la médecine du travail après avoir pratiqué une médecine libérale et d'avoir pas réussi à trouver de clients pour leur cabinet, ou pas assez, parce que ça peut être difficile. Et la médecine du travail, il faut savoir qu'il y a une grille, il y a une grille de conventions collectives, et en fait, les services font systématiquement plus que la grille. Et la grille, c'est vous commencez aux alentours de 3 000 euros par mois, vous finissez aux alentours de 6 000 euros par mois. Pour un métier salarié, vous n'avez pas obligé de trouver vous-même vos patients, vous savez combien vous allez toucher chaque mois. Donc non, c'est sûr que c'est pas des prolétaires.
On va donc terminer sur cette bonne nouvelle. Sur l'avenir radieux des médecins du travail, à défaut qu'il soit radieux pour la médecine du travail et des travailleurs. Merci beaucoup Pascal-Marie Chalard.
Merci à vous.
Ça nous a bien éclairé sur cette question de la médecine du travail. On rappellera que tu viens de publier un article dans la revue de Politics, le numéro 91 de 2010, consacré au thème santé et travail.
La réalité du monde du travail, je dirais sa férocité parfois, on la connaît pas. Moi j'ai plein d'orthopédistes dans mon milieu de travail, moi j'ai des mecs qui font du chargement et tout. Orthopédiste machin, apte à la reprise sans port de charge. Le mec, son boulot, il est manutentionnaire. L'employeur apte à la reprise sans port de charge, qu'est-ce qu'il en a à foutre ? Il peut ou il peut pas. Donc c'est beaucoup plus violent que ça.